Commencer. Donc nous avons, en cette fête de la solennité du corps du Christ, on peut être surpris qu'on ait une fête comme cela, qui intervient plusieurs semaines après la Sainte Cène, en fait, puisque l'évangile que nous avons entendu nous renvoie à la Sainte Cène plusieurs semaines. Alors normalement, comme je vous le disais au début de la messe, c'est une fête qui est fêtée plutôt le jeudi, qu'on aurait dû être fêté jeudi dernier. Mais comme chez nous, ce n'est pas férié, c'est reporté au dimanche. En tout cas, ça nous renvoie au mystère de la Sainte Cène, parce que très vite, dans l'Église, on a pris conscience qu'on pouvait passer à côté du mystère. Nos frères protestants qui ont voulu retourner à l'Écriture, l'Eucharistie, pour eux, est devenu quelque chose de l'ordre d'un symbole très atténué. Or, en fait, c'est l'inverse qui s'est passé tout au long de l'histoire de l'Église. Dans les premières mille années, on avait un grand respect de l'Eucharistie, et déjà, on célébrait l'Eucharistie très régulièrement, tous les dimanches. Il y a même des chrétiens, dans les premiers temps, qui sont morts en allant à la messe. Et on a des témoignages du style des premiers chrétiens. On leur dit « On ne vous tue pas si vous renoncez à aller à la messe ». Ils disent « Sans la messe, je ne peux pas vivre. » Et ils sont morts. Quand même le faire. Ça veut quand même dire que ce n'est pas simplement l'obligation, comme on dit parfois, on est obligé le dimanche d'aller à la messe si on est catholique. Non, c'est une nécessité pour nous. L'Eucharistie nous donne quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Certes, Jésus l'a bien dit, le Saint-Esprit vous est donné, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, mais on a besoin du sacrement que le Seigneur a institué à la Sainte Cène, il nous a dit « Faites cela en mémoire de moi », on a besoin de ce sacrement pour vivre en chrétien. Et c'est vrai que quand on n'arrive pas à aller tous les dimanches à la messe, bien, progressivement, notre foi se modifie, et s'atténue parfois, ça dépend, mais souvent s'atténue, et se modifie surtout. Progressivement, on a une foi soi-disant chrétienne, mais bien souvent, c'est une foi très subjective et qui n'est pas automatiquement très fidèle à la révélation, à ce que Jésus nous a donné dans l'Écriture et dans l'enseignement de l'Église. Très vite, puis il y a quelque chose qui s'affadit, on ne témoigne plus aussi, on n'a plus envie de témoigner de notre foi. Les premiers chrétiens donc avaient une forte conscience de ce qui se passait dans l'Eucharistie, mais le Saint-Esprit, comme Jésus l'avait promis, va révéler encore davantage ce mystère. Ce sacrement déjà vécu avec respect, il va le dévoiler et le manifester. On va prendre très vite l'habitude de célébrer la messe sur le tombeau des martyrs, au début, quitte à risquer là aussi sa vie. Et ensuite, on mettra sur les autels, normalement les prêtres célèbrent toujours avec des reliques, soit de martyrs, soit de saints. Alors, il y a un assouplissement aujourd'hui pour pouvoir célébrer un peu plus facilement, mais nos frères orientaux, par exemple, même quand ils vont célébrer dans des lieux à l'extérieur ou dans des lieux improbables, eh bien, ils ont des corporaux avec dedans des reliques de saints, parce qu'ils célèbrent toujours sur un autel de saints. Pourquoi ? Parce que l'Eucharistie, c'est Jésus qui s'offre, mais qui entraîne avec lui toute la communauté chrétienne. Nous sommes son corps et nous partons avec lui dans l'Eucharistie, nous sommes emportés avec lui dans l'Eucharistie. Et ceux qui nous ont précédés et qu'on reconnaît comme saints, on sait qu'ils sont au ciel, ils sont avec le Christ. Eux, ils ont complètement vécu ce mouvement. Et donc, les martyrs, les saints, en mettant des reliques de leur présence sous l'autel, sous le pain et le vin consacrés, eh bien, ça manifeste cette unité qu'il y a. Et nous-mêmes, nous sommes invités nous-mêmes à aller aussi, dans l'Eucharistie, à aller aussi sur l'autel avec le Christ, à s'offrir avec lui. La procession d'offertoire qu'ici on fait tous les dimanches est là pour signifier ça. Mais ce n'est pas simplement au moment de la procession. C'est qu'après, sur l'autel, on est offert et le Seigneur, ce qu'il fait pour le pain et le vin, il veut le faire dans nos vies. Il transforme le pain et le vin en corps et sang et il le fait aussi pour que nous-mêmes nous soyons à terme transformés en sa présence. Les lectures de ce jour nous présentent aussi que ce sacrifice, qui est le sacrifice même de Jésus sur la croix, c'est le sacrifice d'une alliance nouvelle. Et à chaque fois qu'on célèbre la messe, eh bien, c'est cette alliance entre Dieu et nous qui est redonnée, qui est actualisée, redonnée, recellée, consolidée. Pour ceux qui se marient, dans la grâce du mariage, le mariage est un sacrement qui se donne une fois pour toutes, et puis ensuite, c'est à chaque Eucharistie que la communion du couple est réactualisée, réactivée. Mais pour tout chrétien, tout baptisé, c'est la communion, l'alliance avec le Seigneur qui est consolidée, approfondie. Nous avons donc besoin de l'Eucharistie. Les premiers chrétiens vont le vivre petit à petit. On va comprendre de mieux en mieux ce qu'est le mystère eucharistique. Au XIe, XIIe siècle, alors que les chrétiens d'Orient se seront séparés de les chrétiens d'Occident, l'Église orthodoxe, l'Église orthodoxe va maintenir un peu cette tradition antique. Si vous voulez avoir l'idée de comment on vénérait l'Eucharistie dans l'Antiquité, il faut aller chez nos frères orthodoxes dans les liturgies orientales. J'aime bien renvoyer à la liturgie orientale parce que pour moi, elle a, le Concile Vatican II dit que toutes les liturgies ont la même dignité. Donc la liturgie romaine, latine, telle que nous la célébrons, n'est pas supérieure aux liturgies d'Orient. Les liturgies d'Orient nous enseignent des choses et nous corrigent, c'est comme ça en tout cas moi je le perçois, nous corrigent sur certains défauts d'une liturgie qui voudrait être trop, facile. Une liturgie qui ne serait pas longue, bien compréhensible, en français, on peut réfléchir beaucoup, on pense à plein d'autres choses, on ne pense pas au ciel, voilà. Donc on est tenté, nous, l'Occident, on est tenté, dans la liturgie actuelle, on est tenté. Il ne faut pas qu'on cède à cette tentation. Très important de garder toutes ces dimensions eschatologiques du ciel qui descend sur la terre, etc. 11e, 12e siècle, c'est là qu'en Occident, il va commencer à y avoir des polémiques sur la question de la présence réelle. Il va y avoir des débats qui se feront assez violents parfois. Et là, eh bien, le ciel, qui était toujours là, présent, le Saint-Esprit agissait dans son Église, tout ça, mais le ciel va intervenir de façon plus pressante. Peut-être parce que le danger de l'Occident, c'était justement de quitter cette conscience très forte de la beauté du mystère eucharistique et de cette folie du mystère eucharistique. C'est d'ailleurs, encore une fois, moi j'ai rien contre nos frères protestants, il faut les aimer, il faut prier avec eux, il faut les inviter à venir découvrir, mais nos frères protestants vont céder à cette tentation de simplifier notre foi, de lui enlever le côté un peu, comme disent les disciples de Jésus au chapitre 6 de Saint Jean, quand il parle du pain de vie, cette parole est insupportable. Ça n'a aucun sens. On peut vivre sans l'Eucharistie, on peut vivre sans la présence réelle de l'Eucharistie. Et donc, pour éviter que l'Église d'Occident cède à cette tentation, le ciel va intervenir. Et c'est là qu'il va y avoir, au XIIIe siècle, alors donc au XIe, XIIe siècle, il va y avoir des polémiques, en particulier le Saint-Père, c'est toujours le pape qui a le dernier mot, qui va dire non, on tient la ligne. De fait, dans le pain et le vin, il y a bien, après la consécration, le corps et le sang du Seigneur, seulement les apparences du pain et du vin sont maintenues. Le miracle, c'est un miracle en deux étapes, c'est le pain et le vin sont transformés au corps et sang du Christ, mais il y a un deuxième miracle, c'est que le corps et le sang du Christ gardent les apparences du pain et du vin. Donc ça, c'est un deuxième miracle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, va apparaître, comme le Seigneur l'a fait en d'autres situations, Jésus va se manifester à Sainte Julienne de Montcornillon en 1208 à Liège, en Belgique, pour dire « il manque quelque chose dans l'Église, il y a une fête qu'il faut mettre ». Et c'est à la demande du ciel, c'est le Seigneur qui le demande. Il se trouve que l'archidiacre de Liège va devenir pape aussitôt après. La Providence fait bien les choses, il va devenir pape, et en fait, ce que Jésus va demander à Sainte Julienne de Montcornillon, eh bien, va être institué pour l'Église universelle aussitôt, cette fête que nous fêtons aujourd'hui. Au XIIIe siècle, elle va être instituée. Qui est une fête d'affirmation que nous osons passer pour ridicule, s'il est besoin, alors surtout quand on fait des processions dehors, Parce que nous disons, dans ce pain, que l'on va porter en procession, mais dans le vin aussi, nous voyons avec les yeux de la foi, les yeux du cœur, nous voyons le Seigneur bien présent, avec son corps, avec son âme, Seigneur Jésus mort et ressuscité, avec son corps, avec son âme et avec sa divinité. Ce qui fait que ce pain, aux apparences de pain, nous savons qu'il y a Dieu. Comme dit le Concile, c'est la présence au plus haut point. On ne peut pas avoir plus de présence de Dieu dans un espace. Dieu est vraiment présent là de façon particulière. Bien sûr, il est présent dans notre cœur, il est présent, il agit dans notre assemblée, mais là, c'est encore plus fort. Et donc, à la suite, il va y avoir donc cette fête qui va être instituée, et puis, comme pour confirmer les choses, on est encore dans une période de polémique par rapport à la présence réelle, eh bien, il va y avoir de multiples miracles miracles eucharistiques qui vont avoir lieu. Et donc, autour de cette fête, il y avait beaucoup d'opposition, et puis le pape Urbain IV, qui donc aura été témoin en Belgique de cette. Qui connaîtra Sainte Julienne, eh bien, c'est lui qui va l'instituer, et puis il va demander à Saint Thomas, qui va vivre à la même période, Saint Thomas, d'écrire tous les textes de la liturgie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une liturgie qui a été écrite par saint Thomas d'Aquin. Et puis, pour confirmer cette foi, il y aura une multiplication de miracles. Il y en aura un qui aura lieu carrément du temps du pape Urbain IV, et qui est en Italie, où un prêtre, au moment de célébrer, a des doutes sur la présence du Seigneur dans l'Eucharistie. Et là, l'hostie va se mettre à saigner. Et donc, on va garder cette relique. Le sang va tomber sur le corporal, etc. Et donc, le pape lui-même va venir vérifier ce miracle. Il y aura d'autres miracles, il y aura en France. En France, il y aura des miracles. Et puis, de multiples miracles, mais je ne vais pas exposer. Il y avait une exposition il y a quelque temps, à cause des 10 ans de l'adoration, qu'on a fait dans cette église pour rappeler combien le Seigneur vient à notre secours du manque de notre foi. De la difficulté que nous avons à croire. Alors, aujourd'hui, j'ai déjà été suffisamment long, je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à ce mystère. Ce mystère, on n'a jamais fini de découvrir. Le curé d'Ars, il disait que si le prêtre comprenait ce qu'il faisait, il mourrait. Donc moi, je n'ai pas fini de le découvrir, et je suis loin de l'avoir vraiment découvert, le mystère de l'Eucharistie. Mais c'est valable pour nous. C'est un mystère qui est comme le mystère de Dieu, qu'on n'a jamais fini. On sait simplement que dans l'Eucharistie, il y a tout. Dans l'Eucharistie, il y a tout le mystère de notre foi. Il y a tout un résumé, il y a une condensation. C'est condensé. Et donc, quand on prie la messe, eh bien, il faut prendre conscience aussi que ça nous dépasse. Et il faut demander au Seigneur, fais grandir ma foi et donne-moi des lumières nécessaires pour grandir dans l'accueil de cette folie d'amour que tu as eue. Pourquoi tu as fait l'Eucharistie? Ça, on lui demandera au ciel. C'est vrai que, il y en a certains qui disent on pourrait faire sans. Mais il veut nous montrer qu'il nous aime jusque-là. Et puis, il faut vraiment se mettre dans ces dispositions pour pouvoir cheminer dans cette foi, dans l'Eucharistie, qu'on n'a jamais fini de découvrir. C'est pour ça que sur la paroisse, il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles on a mis en place l'adoration eucharistique, mais l'adoration eucharistique a transformé la paroisse, l'adoration perpétuelle de l'Eucharistie a transformé la paroisse parce qu'il y a un amour plus grand qui s'est développé pour Jésus par le biais de l'Eucharistie, par l'intermédiaire de l'Eucharistie. Et je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, à vous inscrire, à prendre ces temps d'adoration. C'est des temps qui sollicitent notre foi. On est devant le Saint-Sacrement. Parfois, on n'a pas trop envie d'être là. On y va, c'est des rendez-vous, Jésus est là. Voilà, on se dit, on a des doutes parfois, on peut être assailli par des doutes, on peut être assailli par la tiédeur. C'est surtout la tiédeur qui nous guette d'ailleurs. Voilà, en tout cas, je vous encourage vraiment à vous inscrire à l'adoration. Il y a des créneaux qui sont toujours libres, c'est comme ça, depuis le début, depuis 10 ans, il y a toujours des créneaux libres. Donc inscrivez-vous, sur vos feuilles, vous avez des créneaux, vous avez l'adresse mail pour vous y inscrire. En tout cas, voilà, vivez l'adoration eucharistique, ça vous permet d'être des meilleurs chrétiens. Voilà, que le Seigneur nous soutienne et nous aide. Amen.